Bonjour à tous. Nous allons continuer à méditer la parole de Dieu. Nous avons commencé par la louange, mais c'était la parole. Moi, j'ai été vraiment interpellé par cette louange. Donc, je dis merci au pasteur. J'aimerais que nous puissions lire ensemble 1 Jean, épître de Jean, au chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 26, 1 Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 26. L'apôtre dit ceci, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Mais pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Prions le Seigneur. Oui, c'est notre Dieu, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, d'être avec nous jour après jour, Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à la comprendre et toujours à la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Nous verrons ici dans l'évangile, dans l'épître de Jean, le verbe « demeurer ». Revient plus d'une vingtaine de fois dans cet épître. Mais s'il revient plusieurs fois, c'est l'idée de demeurer en Christ ou de Dieu afin d'interpeller ses auditeurs sur l'espérance chrétienne. L'espérance du chrétien, c'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. Cette espérance du retour permet à tous les vrais chrétiens, un vrai croyant, de continuer à demeurer en Dieu dans l'attente de l'avenir glorieux qui nous est réservé. Cette espérance, nous verrons que concerne tous les enfants de Dieu, jeunes. Comme Jean le dit ici au verset 14, chapitre 2, tout verset 14, il dit ici, jeunes gens, il écrit aux jeunes gens, ceux qui ont appris la saine doctrine sans grande expérience de la vie, ils n'ont pas encore une pleine connaissance de Dieu, mais ils s'adressent quand même à ces jeunes gens, ils s'adressent aux petits enfants en Christ, ceux qui avaient été pardonnés et pouvaient connaître Dieu, mais qui possèdent une connaissance élémentaire encore de Dieu. Il écrit aux pères, il écrit aux adultes, donc pères et mères, de ceux qui sont plus mûrs spirituellement, qui ont une connaissance profonde du Dieu éternel dans sa plénitude. Donc nous voyons ici que Jean écrit à ses bien-aimés dans le Seigneur. Il écrit à tous ceux qui ont la certitude d'appartenance au Seigneur. Tous font partie de la famille de Dieu. Petits enfants, jeunes gens, les pères. Mais ce qui est frappant dans cette épître, l'apôtre Jean présente... qui est souvent présenté comme l'apôtre de l'amour, celui qui parle plus de l'amour, mais nous verrons qu'il a des arguments vraiment très dogmatiques, très engagés. Le dit ici au chapitre 1er, nous allons voir quelques arguments qui sont frappants. Au chapitre 1er, verset 6, il dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Christ, doit marcher comme il a marché. » Mais je reviens au chapitre 1er, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Christ, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Certains faux docteurs prétendaient avoir été éclairés et être en communion avec Christ alors qu'ils marchaient dans les ténèbres. Ainsi, leur manière d'agir montrait qu'ils n'étaient pas sauvés. Non seulement ces faux docteurs et ceux qui les suivaient marchaient dans les ténèbres, de plus, ils allaient jusqu'à nier même leur nature pécheresse. Et nous voyons encore, peut-être jusqu'à nos jours, des personnes qui ont du mal à venir à Jésus-Christ. Et Jean le dit ici au chapitre 1er toujours, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Si on dit on marche dans la lumière et qu'on a la haine des frères et sœurs, nous démontrons par là que nous sommes toujours dans les ténèbres. Ainsi dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il dit, n'aimez point le monde, bien qu'il insiste sur l'importance de l'amour, et ne manque pas de répéter que Dieu est amour, mais il dit bien, Dieu a la haine du système du monde. Donc la seule façon de rejeter le monde, c'est-à-dire le système du monde avec ses convoitises, c'est de demeurer en Christ. Demeurer, comme nous allons prendre du temps sur ce verbe, le petit Robert dit ceci, demeurer c'est rester à un lieu, continuer d'exister, d'habiter, rester à la propriété de. Nous verrons que cette définition va un peu dans le sens de la Bible. Le dictionnaire Larousse dit demeurer, c'est être de façon continue dans un lieu ou dans un état, être dans une condition. Nous verrons que dans le sens biblique, c'est demeurer implique que l'on reste auprès de quelqu'un. Demeurer, rester auprès de quelqu'un. Il y a ici l'esprit d'attachement à quelqu'un. Pour nous chrétiens, bien évidemment, nous sommes appelés à rester, être attachés à Dieu. Au-delà du attachement, nous remarquons aussi l'esprit d'appartenance. L'esprit d'appartenance à Dieu. Donc si les disciples authentiques sont ceux qui demeurent, qui restent attachés au Seigneur. Dans son évangile, Jean reprend la métaphore du Seigneur. Nous verrons dans au chapitre, dans l'évangile, je vais lire quelques versets. Jean chapitre 15 qui nous montre ici des gens qui demeurent dans le Seigneur. Chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. Je dirais ce matin, frères et sœurs, restons attachés au Christ. Demeurez en Christ, sachant que c'est une œuvre divine. Ce n'est pas une invention humaine. C'est ni à cause de nos grandes connaissances que nous pouvons acquérir avec le temps, non. Il le dit ici, l'épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue, l'onction qui nous fait naître en Christ, vient de Dieu. C'est le seul moyen, la parole divine et l'intervention de l'Esprit Saint qui nous rend enfants de Dieu. Le moyen par lequel les hommes et les femmes sont sauvés aujourd'hui ne change pas. Il y a toujours le seul moyen, c'est de venir à Jésus-Christ, confesser ses péchés et accepter l'onction que le Seigneur nous donne. Le grand théologien John Stott, dans son commentaire, dit ceci: les chrétiens devraient toujours être conservateurs dans leur théologie. La démangeaison d'écouter en courant sans cesse après de nouveaux docteurs, en écoutant n'importe qui et en parvenant jamais à la connaissance de la vérité, est un trait caractéristique des temps difficiles qui viendront dans les derniers jours. Il conclut en disant ceci: le véritable chrétien, celui en qui l'onction divine demeure, ne peut pas jeter l'ancre dans les profondeurs de la pensée spéculative. Il rappelle ici que c'est par grâce, c'est vrai, que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Son onction vient demeurer en nous quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Et cette grâce, et grâce à cette onction, la méditation de la parole de Dieu, que nous serons protégés toujours des faux docteurs qui sont aujourd'hui dans le monde. La Bible nous dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. C'est vrai qu'en relisant cette épître que je connais, j'ai été interpellé par ce caractère de Jean, ce caractère qui allie douceur et exigence. La douceur et exigence. Jean reconnaît qu'il ne pourra arriver, il peut nous arriver de tomber. Mais ceux qui ont reçu l'onction divine doivent vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, comme le maître a vécu. Comment pourrais-je dire que je connais Dieu? En obéissant tout simplement à sa parole. J'ai un fils de 20 ans qui lit beaucoup, qui connaît beaucoup de choses, qui maîtrise Google. Je ne sais pas si c'est il maîtrise Google ou c'est Google qui le maîtrise. Mais il a tellement de connaissances. Et quand on parle même de la Bible, il me dit: je crois à ma façon. Lui croit à sa façon. Jean nous rappelle ici, chers amis, les caractéristiques du véritable chrétien. Comment savoir que nous avons reçu l'onction? Je l'ai dit, l'obéissance au commandement de Dieu. Relisons dans l'épître de Jean, chapitre 2, verset 3. Verset 3 qui nous dit: si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit, il doit marcher selon les commandements de Dieu. Comment savoir que j'ai reçu l'onction du Seigneur, l'onction divine, l'obéissance au commandement de Dieu? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. En parlant de cette caractéristique de l'obéissance, c'est vrai qu'on se dit: est-ce que j'obéis jour après jour? Est-ce que j'arrive? Comment se fait-il que je n'arrive pas à obéir? Est-ce que quelqu'un dit: parce que je suis chrétien, donc je vais obéir tous les jours, je peux obéir? Calvin dit ceci: obéissance, cela ne signifie pas que ceux qui honorent pleinement la loi de Dieu gardent ce commandement. Car l'on ne peut trouver un tel exemple dans le monde. Ce qui dit que j'obéis à tous les commandements, tous les jours. Mais il continue, dit: mais ce sont ceux qui s'efforcent, selon la capacité de la faiblesse humaine, de façonner leur vie dans l'obéissance à Dieu. Donc la première caractéristique ici, de savoir que j'ai l'onction de Dieu, c'est le désir d'obéir à la parole de Dieu, malgré notre faiblesse humaine, mais que j'ai ce désir de marcher selon la parole de Dieu. La deuxième caractéristique du véritable chrétien, nous voyons aussi au verset 7, Jean chapitre 2, au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Toutefois, ce n'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui, en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc la deuxième caractéristique ici, frères et sœurs, c'est quoi? L'amour des frères et sœurs. L'amour agapé. Cet amour qui se donne sans rien attendre en retour. Et la Bible dit l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Avoir une réelle connaissance de Dieu se résume à aimer Dieu et à aimer son prochain. J'aime bien, quelqu'un a dit, la lumière de Dieu est la lumière de l'amour. De telle sorte que marcher dans la lumière revient à marcher toujours dans l'amour. L'amour pour Dieu s'exprime par la foi, l'obéissance et le souci des autres. Est-ce que je me soucie des frères et sœurs en Christ? Est-ce que je me soucie même des voisins, de mes voisins? Dans la pratique, est-ce que j'ai toujours du mal à pardonner aux autres? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme Christ a marché lui-même. Christ demeure, Christ est et demeure la victime expiatoire pour nos péchés. Il défend notre cause toujours auprès du Père, alors que nous avons souvent du mal à pardonner aux autres. La Bible nous rappelle que Christ, lui, il nous a pardonné. En amour, il n'y a pas de clair-obscur dans la vie spirituelle. Peut-être dans la nature ou dans la peinture, nous pouvons apprécier des nuances. Mais en amour, non, il n'y a pas de clair-obscur. Soit j'aime mon frère et sœur, soit je pardonne, je montre par là que je suis enfant de Dieu. Soit j'ai du mal encore à pardonner parce que je vis dans les ténèbres. Quoi que chacun de nous doit réfléchir. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Jean ici parle de la troisième caractéristique du véritable chrétien. Nous voyons aussi au chapitre 2, verset 29. Chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque. La troisième caractéristique ici, c'est pratiquer la justice de Dieu. Oui, Dieu est juste. Dieu est amour. Donc la conséquence logique de ceux qui sont nés en lui est la marche dans la justice. La justice d'une personne est la marque de sa nouvelle naissance et non sa cause. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous appelle à marcher dans la justice. Tous ceux et celles qui ont mis leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous dit ici Jean, sont devenus enfants de Dieu et l'onction divine demeure en eux. C'est une certitude. Demeurer en Christ est décrit ici comme une réalité riche de sens. S'attacher fidèlement à lui, recevoir son enseignement, le laisser nous purifier, lui obéir, aimer les frères et sœurs, son exemple ici, porter du fruit dans ce monde. C'est vrai qu'en lisant ces versets, nous pouvons que dire amen. Mais Jean termine par un impératif. Je dirais un commandement. Au verset 28, Jean chapitre 2. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Demeurer, il a montré, c'est une certitude. Mais ici, il nous appelle, il nous donne ce commandement à demeurer en lui. Pourquoi demeurer en lui? Demeurer ici a le sens ici de grandir en Christ, croître dans la communion avec Christ. Croître, c'est un ordre. Jean veut dire ici que tous les chrétiens véritables ne doivent pas adopter une attitude passive, mais au contraire de rechercher activement cet état, de grandir. On le trouve aussi dans Philippiens, la même idée. Notre salut est éternel par la grâce de Dieu. C'est lui, Dieu, qui nous garde, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Je ne vais pas énumérer ici des passages du Nouveau Testament qui nous parlent à la fois de l'œuvre de Dieu et celle du croyant. L'apôtre Paul, en parlant aux Colossiens, dans l'évangélisation, leur dit ici ce qu'il faisait. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Travailler comporte la notion de s'investir jusqu'à l'épuisement. Même souvent jusqu'à l'agonie. Il était conscient, l'apôtre, qu'il ne pouvait bien travailler ou combattre efficacement en portant des fruits spirituels que par l'action de Dieu au travers de lui. L'action de Dieu au travers de nous. Il n'y a pas de place pour la passivité, chers amis, dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de place pour la retraite dans la vie chrétienne. Peut-être ceux qui sont déjà à la retraite, peut-être certains d'entre nous qui nous approchons. Il n'y a pas de retraite dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés ici, nous sommes commandés à persévérer en lui. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi et l'obéissance selon les enseignements que l'onction nous a donnés. C'est ce que la Bible dit ici. Nous sommes appelés à persévérer et à croître dans l'amour de Dieu et des frères et sœurs. Même si des fois certains ne sont pas faciles à aimer, nous sommes appelés quand même à les aimer. La Bible nous l'exige. L'amour a toujours un coût, chers frères et sœurs. L'amour peut être exigeant. Et la Bible nous appelle. Quel que soit le frère, quel que soit son caractère, nous sommes appelés toujours à l'aimer, à nous mettre à sa disposition. Oui, s'il avait fallu que le Seigneur tienne compte de ce que nous sommes, qui aurait-il aimé? Pas moi personnellement. Mais le fait que j'ai l'assurance qu'il m'a donné sa vie, le fait que nous avons, plus d'entre nous, l'assurance que son onction demeure en nous, qu'avons-nous fait pour l'avoir? C'était juste par amour que le Seigneur s'est donné. Juste par amour. Et nous avons souvent, nous, encore du mal à aimer nos frères. Nous avons toujours du mal à pardonner. Nous avons toujours du mal à aller vers les autres. Le Seigneur est venu. Il nous dit d'y aller. Travailler jusqu'à l'agonie. Un jeune comte allemand du nom de Zinzendorf se rendit un jour dans un musée dans une ville, bien sûr, allemande. En visitant le musée, il fut frappé par un tableau qui parle de la crucifixion du Christ. J'ai oublié le nom du peintre, peut-être beaucoup le savent. Mais les personnes qui accompagnaient continuaient leur route, leur visite, et le comte resta en contemplation devant ce tableau. Ce qui avait retenu son attention, c'était une petite phrase que le peintre avait ajoutée au bas du tableau. « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Au bord du tableau, parlant de Christ, « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il paraît que c'est à la fermeture du musée qu'un gardien vint dire au comte que le musée fermait ses portes. En sortant du musée, le comte Zinzendorf était devenu un autre homme. Il avait fait l'expérience avec Christ. Il avait accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Dès lors, il consacra sa vie et sa fortune à l'œuvre du Seigneur. Il fonda l'église morave et les missions qui en dépendent. Il y a encore ces grandes églises, que ce soit en Europe du Nord, plus particulièrement aujourd'hui aux États-Unis. Cette mission envoya des milliers de missionnaires dans le monde. Zinzendorf fut vaincu par l'amour de Dieu à travers l'œuvre d'un artiste. Et il se donna. Il a voulu donner cet amour pour les autres. Ne devons jamais oublier cette phrase face à la croix de Christ. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Chers amis, nous sommes appelés à persévérer dans la foi et à l'obéissance de Dieu. Nous sommes appelés à persévérer, à grandir dans l'amour de Dieu et des frères et sœurs. Ah, le Seigneur le dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur dit, mettez mes commandements en pratique si vous m'aimez. Nous sommes appelés à persévérer, ici au verset 28 nous dit, afin que nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Nous avons cette certitude que Jésus-Christ revient nous chercher avec lui. Nous savons qu'il est mort pour nos péchés. Il est monté au ciel pour nous préparer une demeure auprès du Père. Et il viendra nous chercher. Là, c'est une certitude. Mais quelle sera mon attitude? La honte d'être éloigné de lui. La gêne de n'avoir pas utilisé les talents qu'il m'a donnés. Nous sommes toujours appelés à nous poser la question. Peut-être plusieurs d'entre nous n'ont pas les mêmes moyens que le comte Zinzendorf. Mais ce qui est certain, c'est que chacun a reçu au moins un talent. Chacun de nous a reçu. Si l'onction de Dieu demeure en nous, chacun de nous a reçu au moins un talent. Mais que faisons-nous de ce talent? Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? J'ai constaté avant les vacances certaines croissances dans notre assemblée. Gloire à Dieu. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en même temps, les équipes de ménage diminuent. On cherchait des volontaires pour l'encadrement des enfants. On cherchait des volontaires pour l'équipe de visite. Des gens qui ont fait cette assemblée, qui se sont donné cette assemblée, tous ne sont pas encore morts. Certains peut-être sont encore chez eux. Mais ils attendent. Peut-être un coup de fil de nous. Une visite de quelques heures. C'est que oui, nous sommes tellement occupés dans cette région. On court, il faut travailler. Il y a des factures à payer, il faut travailler. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre du temps? Quelques heures pour des visites. Une fois par toutes les 5 semaines, venir faire le ménage, être disponible pour les jeunes, Chers amis, chers amis, vous qui êtes membres d'ici ou de passage, je me pose cette question personnellement. Où en suis-je ce matin? Quand le Seigneur viendra nous chercher, la Bible dit que nous n'ayons pas honte d'avoir eu une vie plate. Que nous n'ayons pas honte d'avoir vécu sans engagement, que ce soit dans l'église ou dans la société. Une vie plate. Mais que nous ayons plutôt de l'assurance, ici le mot ici, nous ayons la liberté de parole. Que quand le Seigneur nous dira, voilà ce que j'ai fait pour toi et toi, qu'as-tu fait pour moi, que nous ayons la liberté de dire, j'ai fait ce que j'ai pu avec la force que tu m'as donnée. Amen. J'ai fait ce que j'ai pu avec la force que tu m'as donnée. Nous sommes, comme on le dit encore, c'est le temps des vacances, le temps de la réflexion. Le temps de nous poser la question maintenant, la vie, je vais reprendre la vie chrétienne, et où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours celui qui est derrière ou celui qui se donne, celui qui va vers les autres? Nous voyons enfin qu'être engagé dans l'œuvre du Seigneur nous permet de rester en communion avec lui. Et cela a une influence dans notre vie de prière. Jean continue, il dit, si vous demeurez en moi, là c'est dans l'évangile, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez et cela vous sera accordé. Mais si vous demeurez en moi, si vous grandissez en moi, si vous avancez, vous engagez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Plus vous communiquez avec quelqu'un, plus vous connaissez la volonté de l'autre. Certains me diront, c'est mathématique. C'est le béaba. Les vies, les couples qui s'entendent à merveille. Les familles qui s'entendent où il y a la clarté. Pourquoi? Ce sont des couples où il y a la communication. Où on discute. Où il y a donc on connaît la volonté de l'autre. La Bible nous dit, si tes frères et sœurs, en obéissant au commandement du Seigneur, en nous soumettant à sa parole, nous connaîtrons sa volonté. Et le fait de prier selon sa volonté, il exauce nos prières afin que nous portions encore beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Pense ce matin, chers amis, il y a ici un appel à l'action. Vivons comme notre Seigneur Jésus-Christ dans l'obéissance de la parole de Dieu et pour l'amour des frères et sœurs. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir fait cette grâce de te connaître. Merci de savoir, Seigneur, tu nous as mis ton esprit en nous pour nous aider à demeurer en toi, à vivre pour toi. Mais Seigneur, nous le savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour ça encore, ce matin, nous t'implorons que tu nous remplisses. Que tu nous remplisses de ta vie. Afin que, Seigneur, nous pratiquions des œuvres qui te glorifient. Que nous soyons toujours engagés dans ton œuvre. Merci, Seigneur, de savoir que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.